Troisième et dernier temps, les solidarités nouvelles tissées sur notre territoire. Dans les Landes, c'est surtout à partir de 2015-2016 que de nouvelles situations ont été créées. D'une part, le flux massif qui venait du Moyen-Orient ou d'Afrique subsaharienne, mais d'autre part, le démantèlement de la jungle de Calais en 2016 aussi. Et le fait que l'État a réparti ensuite les migrants qui étaient à Calais sur le territoire, dans les préfectures d'abord, voire dans des sous-préfectures, et des collectivités locales, même des petits villages, ont été volontaires avec leur tissu associatif pour prendre en charge ce type de migrants-là. Chez nous, sur notre territoire d'Aqua, cela s'est traduit par la création de deux lieux d'accueil de migrants, l'un qu'on appelle un CAO, Centre d'accueil et d'orientation, c'est une structure temporaire qui après aiguille les migrants. Et au berceau de Saint-Vincent-de-Paul, le CAO a fonctionné à deux reprises. Plus récemment, depuis l'été 2017, l'État, le préfet des Landes, a créé à Dax un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Eh bien, je laisse la parole à Patrice pour évoquer le CAO et je la reprendrai pour évoquer le CADA.
Alors, le CAO, si vous voulez, nous, on a été interpellés. Non pas par l'Église, mais par les services départementaux, comme on l'a dit Jean-François. La demande a été faite en direction des maires, et c'est donc le maire de Saint-Vincent-de-Paul qui, en fin d'année 2016, nous a questionnés par rapport à des bâtiments, si vous voulez, qui, sur le berceau, il y a beaucoup de bâtiments, et il y avait notamment un bâtiment relativement inoccupé, qu'on appelle le séminaire, qui était autrefois un bâtiment qu'occupaient les pères lazaristes pour leur séminaire interne. Donc, il y a eu une première série de réunions. Ça pressait, il fallait désengorger les calais. Donc, les autorités préfectorale voulait que ça aille très vite. Et donc, on s'est retrouvé avec le sujet à prendre en main quant à l'accueil. Donc, c'était un accueil à organiser rapidement, en concertation avec un certain nombre d'associations, Secours Populaire, Secours Catholique, l'hôpital pour les soins, l'épicerie sociale, etc. Et puis la source aussi. Et donc, ça a été le premier aspect de travail collectif. On n'y était pas préparé. Je veux dire que, titre de témoignage personnel, les migrants, je lisais beaucoup. Comme diacre, j'allais à la messe, on priait souvent pour nos frères, les migrants, qui n'ont pas de quoi être accueillis. Mais ça restait quand même très élevé, on était vers le haut, mais là, on s'est retrouvé à toucher la réalité. Et on a retrouvé, à l'occasion de la préparation de ce premier CAO, à gérer un certain nombre de peurs. Alors je vais dire nos peurs personnelles, parce que tant qu'on évoque le sujet théoriquement, on a de bonnes intentions. Là, on était interpellés chacun. Et puis, toutes les structures qui tournaient autour. Donc, l'établissement scolaire, la maison de retraite, les pèlerins qui venaient au berceau pour des retraites, etc. Et on a senti le quartier du berceau aussi. Hein, qu'est-ce que ça va être là, cet entassement de migrants, etc. Donc, on a pris un temps d'information avec le maire qui était partie prenante, voilà, pour un peu présenter ce qui allait se passer. Nous ne savions pas qui devait arriver. Donc est arrivé un bus avec 24 femmes âgées de 18 à 60, 68 ans. Parmi elles, une femme enceinte, plus une famille afghane de 4 enfants. Voilà. Voilà, c'est un moment, en tout cas personnellement, que je n'oublierai pas jusqu'à la fin de mes jours, de voir ces visages d'Afghanes, d'Érythréennes, d'Éthiopiennes, Nigériennes, Libériennes et 12 Somaliennes, des femmes épuisées avec des sacs de course, arrivant sur ce lieu, complètement hagard, arrivant dans ce lieu un peu paumé, certaines arrivées de Calais, de la région parisienne. Et voilà, ça a été pour moi le premier temps fort de la rencontre. Je veux dire, alors, difficulté de la langue et pas de, personnellement de capacité, mais ce premier accueil, cette descente de bus et puis l'accueil pour voilà, donner, servir un rafraîchissement. C'est une histoire qui a duré de janvier à octobre. Et on a vécu à côté, puisque le bâtiment où elles sont, nous les côtoyons tous les jours, que ce soit les communautés. Et puis on s'est mis à l'écoute des associations et de la maison du logement qui coordonnait cette présence, hein, puisque c'est la maison du logement qui assurait l'accueil. Là, nous avons commencé à échanger par des gestes, des sourires. Et puis, petit à petit, a été fait appel à des personnes bénévoles pour l'apprentissage du français. Donc, il y a des gens du berceau, des alentours, du village, de Dax aussi, et puis des associations qui se sont impliquées sur l'apprentissage des langues. Et puis, petit à petit, on a eu une demande de bicyclette. Donc, c'est ce que j'appelle l'avancée des petits pas. Et donc, sur la paroisse Saint-Vincent-Notre-Dame, j'ai lancé un appel à collecte de bicyclettes pour ces dames. Et donc, on a eu ce que disait Jean-François, cet élan de la solidarité rapide qui ne se pose pas 5000 questions. Et donc, on a eu, en l'intervalle de 15 jours, les bicyclettes nécessaires à la fois pour la famille, que l'on avait logé dans un appartement du berceau qui était vide, ce qui a permis à cette famille de vivre de suite en famille, et puis donc de permettre à ces personnes d'avoir des bicyclettes. Donc on a vu de tout, parce que certaines n'étaient jamais montées sur un vélo. Voilà. Donc il y a eu des chutes, c'était les éclats de rire, c'était... Puis petit à petit, ces liens ont continué et c'est les migrantes qui nous ont accueillis à partager un repas avec elles. Voilà. Donc elles avaient fait, vous avez entendu, les pays d'origine, nous avons vécu un repas avec leur plat traditionnel fabriqué sur place. Voilà un peu la première expérience. Moi, je veux dire que chez moi, elle a été très forte parce que c'était le premier contact réel d'un groupe de migrants. Alors, au berceau, on a quand même, si dans ce lieu-là, on ne le vit pas, on a quand même l'accueil des SDF et des personnes qui demandent à loger une nuit ou deux nuits. Hein, donc, on avait, dans les personnes que l'on accueille, des personnes étrangères. Mais on n'avait pas vécu cet accueil aussi fort. Tout le monde a été content de ce qui s'est vécu. Parce que finalement, voilà, c'est le quotidien qui a facilité la rencontre. Voilà, fin octobre. Alors, les unes sont parties sur le cadavre qui a ouvert. Notre joie, ça a été que les enfants ont été pendant quelque temps à l'école du berceau, selon le rythme qui correspondait à leur intégration dans les classes. L'aîné était un excellent élève, puisqu'il apprenait l'anglais aux élèves de l'école, dans la classe où il était. Et puis ensuite, ils ont pu être très vite orientés sur le CADA de Mont-de-Marsan. Ils sont à Mont-de-Marsan. Le papa a trouvé du travail. Alors on nous dit souvent, mais vous feriez mieux de vous occuper de les ramener et faire en sorte qu'ils rentrent chez eux. Et comme le papa nous expliquait par des traducteurs, bien sûr, que lui, s'il revenait en Afghanistan, il était destiné à la mort, purement et simplement. Et un jour, au fur et à mesure de nos échanges, il a un jour levé son t-shirt. Et ce que j'ai vu sur son dos a suffi à comprendre ce qu'il vivait. Donc, ils n'arrivent pas pour piquer le travail, vous voyez. Bon, j'entendais Madame Le Pen l'autre jour dire « Rendez compte de ce qu'ils volent aux paysans ». Heureusement, bon, aux informations, ils ont repris tout le calcul pour montrer. Mais cet homme-là n'avait qu'un désir, il était chauffeur de poids lourd, c'était de reprendre une vie avec sa famille. Fin octobre, donc, il y a eu une partie au CADA, une partie qui ont été orientées sur Mérignac, dans ce autre centre d'accueil. Deux autres dames qui sont remontées. Celle qui était enceinte a rejoint son mari qui avait été accueilli à Mont-de-Marsan. Voilà. Et puis, chez les dames, n'a pas eu de cas de débouté. Deuxième CAO, totalement différent puisqu'on a accueilli du mois de mars des hommes, voilà, 35 hommes. Donc il y avait 19 Afghans, 5 Soudanais, 3 Érythréens, 2 Algériens, 1 Irakien, 1 Iranien, 1 Somalien, 1 Turc, 1 Guinéen et 1 Yéménite. Voilà, alors là ça a été différent. D'abord c'était que des hommes avec des problématiques très très différentes, problématiques de souffrance physique vécues dans les pays d'où ils arrivaient, certaines qui ont fait des trajets interminables pour finir par être accueillis. Il y a eu beaucoup plus de tensions à gérer par l'équipe qui a mené le CAO, et bon, là la répartition est différente, il y a eu des déboutés. Et je pense Jean-François, voilà, à l'association vous en accueillez. Il n'y a pas eu de famille sur le deuxième contingent. Voilà. Donc là, il y a eu beaucoup de suivi médical, psychiatrique, de ce qu'ont vécu ces gens. Alors bien entendu, l'histoire personnelle, nous, qui avons mis les locaux gratuitement à disposition, n'est pas au courant de l'histoire personnelle de chacun. Ce que l'on sait, c'est que c'est des histoires difficiles et dures. Voilà. Et je crois que je pense souvent à cette parole du pape François au message pour la journée de la paix en 2018. L'autre est un don. Voilà. Le migrant qu'on accueille, il est un don par ce qu'il nous apporte. Et moi, par exemple, qui ai eu beaucoup de mal à communiquer par la langue, mais par le sourire, par les gestes, quand on se croisait, il passe quelque chose. Je crois que ceux qui ont vécu l'accueil, à un titre ou à un autre, on a quand même été marqués de ce que l'on a reçu de ces personnes. Une partie continue d'ailleurs à avoir des activités sur le CADA, notamment sur Jacqueline qui fait de l'apprentissage du français. Ça nous a donné aussi, enfin, personnellement, l'envie de lire pour pouvoir répondre. Alors je crois que pour nous ça a été intéressant, c'est enrichissant de l'avoir vécu, parce que du coup on se mobilise aussi intérieurement, personnellement, dans le dialogue aussi qu'on a dans nos paroisses, hein, parce que...
Bon.
Par contre, ce qui m'a semblé important, c'est que l'accueil des migrants ne peut pas se vivre seul. Moi, ce qui m'a enrichi, c'est ce collectif qui a été là. Parce que tout seul, on est vite limité. D'abord, parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Hein. Bon, par exemple, l'hôpital qui venait régulièrement suivre ces femmes puis ces hommes, voilà, il y a un aspect quand même médical que je n'ai pas. Voilà, et etc., etc. Bon, et moi, dans ma fonction d'économe, c'était permettre que ce lieu soit le plus accueillant pour ces groupes accueillis. Voilà, quelques mots, ce que j'ai pu sentir, vécu avec d'autres, et voilà. Et je trouve que c'est une richesse, et puis je pense que, voilà, dans la Bible, Abraham a été de suite un migrant. Va, prends tes affaires, va, quitte ton pays et marche. Bon, quelquefois, moi, je me dis, entre guillemets, gentillotte, je suis un migrant du Pays Basque, je suis venu dans les Landes, c'est tout petit. Mais je crois que chacun d'entre nous, quelque part, parfois intérieurement, est aussi un déplacé.
Après le CAO, le CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il s'est installé sur Dax à l'été 2017, donc. Qu'est-ce ? Il s'agit d'un lieu où sont accueillis des migrants qui sont rentrés sans titre de séjour sur le territoire français et qui veulent demander l'asile. Ils se déclarent auprès de l'État. L'État fait une première analyse de leur situation. Et s'il y a suffisamment d'arguments pour creuser la question, on donne aux migrants le statut de demandeur d'asile. C'est un premier pas pour lui. L'État accepte qu'il demande de l'asile. Et on va instruire la demande. Pendant la demande d'asile, l'État prend en charge la vie du demandeur d'asile. Il est logé, il a accès à la CMU, un cran au-dessus de l'AME, et il reçoit une petite allocation mensuelle de 200 euros par mois et par personne. Depuis l'été 2017, 80 migrants demandeurs d'asile sont accueillis par le CADA de Dax. La moitié sont des adultes seuls et l'autre moitié sont des familles avec des enfants. Le CADA a donc un parc immobilier, loue dans le parc immobilier de l'agglomération d'Arcoise, une quinzaine de logements qui sont mis à disposition des familles. Et pour le suivi social, juridique, administratif, le CADA, c'est un lieu aussi, mais simplement un accueil de jour. Et les migrants, ensuite, les demandeurs d'asile, ont leurs appartements. La procédure peut prendre de 6 à 12 mois. Elle est instruite par un organisme d'État qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Ce sont des fonctionnaires d'État qui analysent le dossier qui est construit par les travailleurs sociaux qui gèrent le CADA. L'OFPRA peut entendre la personne de Dax en bus de nuit. La personne, quand elle est convoquée le matin à Paris, elle fait le trajet en bus de nuit. Elle a 1h30 pour faire le récit des raisons pour lesquelles elle demande l'asile. Le fonctionnaire qui est en face d'elle juge de la véracité du récit. Comme ça. Et avec les documents papier. Est-ce qu'il va enquêter dans le pays d'où est originaire la personne ? Non. c'est sur l'intime conviction, en une heure et demie, d'écoute que se fait la décision. La plupart du temps, le migrant maîtrise mal le français. Il y a donc un interprète. Le migrant est dans l'incapacité de vérifier que l'interprète dit des bonnes choses. 40% du temps, la réponse est positive. 60% du temps, elle est négative. Dans ce cas-là, il reste une dernière solution pour le demandeur d'asile. Il peut faire appel. Là, ce n'est plus un fonctionnaire d'État, c'est un juge spécifique qui va gérer la chose. Là, le tribunal spécial s'appelle la CNDA, Cour nationale des demandeurs d'asile. C'est aussi à Paris. Soit le juge juge à partir du dossier papier, soit il convoque à Paris la personne. Une fois que le juge a rendu son verdict, on ne peut plus revenir dessus. Lorsque le migrant demandeur d'asile, soit directement après la première décision de l'OFPRA, soit après la CNDA, obtient gain de cause, il reçoit un titre de séjour pour 10 ans. S'il est débouté, il a un mois. Le jour où il est débouté, il perd la petite allocation de 200 euros par mois. Et un mois après avoir été débouté, il doit rendre le logement qu'on lui mettait à disposition. L'État s'engage à organiser son rapatriement dans son pays d'origine avec un petit pécule, à condition que le pays d'origine en veuille. Si le pays d'origine n'en veut pas, le migrant débouté est dans une situation inextricable. Il n'est plus le bienvenu en France et ne peut pas rentrer chez lui. À l'été 2018, des bénévoles du Secours catholique qui accompagnaient en cours d'alphabétisation des parents, ces familles, il y a Paquita et Karine ici dans l'assistante, ont commencé à comprendre que si pour certaines familles le résultat était positif, pour d'autres il serait négatif. La première famille à qui c'est arrivé, trois personnes, les parents une trentaine d'années, l'enfant 6 ans. Il est rentré au CP dans une école de Dax, comme tous les petits enfants de Dax. Son année de CP s'est bien passée. Et pendant l'été, entre son CP et son CE1, la famille est déboutée. L'enfant n'est pas expulsable. L'enfant n'est pas expulsable, selon les lois françaises. Les parents, oui. Là encore, on est dans une zone de droit bizarre. C'est pourquoi, au début de l'automne, nous sommes un certain nombre d'habitants de l'agglomération dacquoise à s'être dit, on va essayer d'aider ce type de familles-là. Des familles déboutées du droit d'asile qui ont des enfants déjà scolarisés dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. Deux familles se sont retrouvées dans ce cas entre septembre et décembre 2018. Dans la deuxième famille, ils sont 6, avec 3 enfants, 1 au collège, 2 au lycée. Les 2 lycéennes sont en première à Borda. En 10 mois d'apprentissage du français, dans la classe spéciale pour élèves étrangers qu'on appelle une unité pédagogique pour élèves allophones, on leur a donné le droit d'intégrer une classe de première. Elles sont arrivées en octobre ou novembre. En juin, elles avaient le niveau de langue suffisant pour entrer en classe de première à Borda. L'une des deux est en première L. Félicitations au premier trimestre, félicitations au deuxième trimestre. Nous voulons aider les enfants et leurs parents. Le peut-on ? Oui. L'État régularise chaque année 40 000 personnes au titre du droit d'asile et 30 000 personnes pour d'autres raisons. Tout n'est pas perdu pour un migrant débouté du droit d'asile puisqu'il a d'autres voies pour obtenir des papiers. Le chemin est plus escarpé. En 2012, Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur, a rédigé une circulaire avec les critères qui permettent, là c'est plus à Paris, c'est le préfet de chaque département qui décide, en son âme et conscience, guidé par les critères de la circulaire de 2012. Le critère sur lequel on peut s'appuyer, 3 années de scolarisation de l'enfant. Une année quand il est au CADA, si l'IA, des collectifs de citoyens ou des associations constituées en 1901 qui sont en capacité d'aider pour tout pendant 2 ans la famille, on peut espérer déposer un nouveau dossier dans 2 ans. Lorsque le jeune de 6 ans, ben là il est au milieu de son CE1, à la fin de son CE2, dans 1 an et demi, il y aura 3 années de scolarisation. Pour les 2 jeunes lycéennes, elles passent le bac en juin 2020. Peut-être qu'elles auront un titre de séjour pour poursuite d'études et que ça aidera le reste de la famille à avoir la régularisation. Pour cela, il faut s'organiser. Nous avons créé une association Loi 901 en novembre. Nous travaillons en partenariat avec le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD. Nous récoltons de l'argent et nous cherchons des logements où les loger. Pendant les 2 premiers mois, nous avons logé la famille de 3 chez nous, de l'hébergement d'urgence. Le pari, c'était leur trouver un petit appartement. Ce pari-là a été gagné. Le propriétaire nous le prête. Nous nous occupons du reste. Nous assurons la famille. Nous payons les charges. Nous payons les factures à l'aide des dons que nous avons recueillis et à l'aide de subventions que certains nous donnent. L'évêché, le Grand Dax, peut-être bientôt le Secours catholique. On a rendez-vous lundi prochain. La paroisse de Saint-Vincent-Tyros. On connaît ici le curé actuel, il a été curé ici, Gérard de Rodin. Chaque année, une soirée festive à but humanitaire. Les bénéfices donnés à une association. Cette année, ils ont décidé de nous donner les bénéfices. Il faut à peu près 5 à 6 000 euros par an pour aider une famille. Pour les 2 familles qu'on aide actuellement, il nous faut un budget de 10 000 euros. C'est mieux quand on trouve un propriétaire solidaire qui nous prête l'appartement. Nous cherchons actuellement, pour avril-mai, un appartement avec 2 chambres pour loger la 2e famille qui va être sûrement mise à la porte du CADA en avril-mai. À 6, il loge actuellement dans un appartement de 2 chambres. On ne cherche pas plus. On peut financer des loyers au tarif conventionné de l'habitat social, à 7 euros le mètre carré, c'est-à-dire en dessous du marché officiel. On cherche un T3 que son propriétaire nous prêterait ou nous louerait à maximum 400-450 euros par mois. On a les moyens financiers avec l'argent récolté. Sinon, nous cherchons de généreux donateurs. Le trésorier de l'association me gronderait si je ne disais pas que nous sommes une association qui offre de l'aide dans le domaine du logement et de l'alimentation, jusqu'à 537 euros de dons, 75% de réduction d'impôt. Au-delà de 537 euros de dons, 60% de déduction d'impôt. Ainsi, on fait contribuer l'État au soutien de ces migrants. C'est très beau, ça. Voilà, il y aura des flyers à récupérer avec nos coordonnées, etc. Nous avons aussi besoin d'ambassadeurs de l'association pour diffuser l'info autour, voire de bénévoles. Nous sommes une 40aine pour l'instant, avec une 20aine qui travaille au quotidien pour l'aide aux 9 personnes des 2 familles. Nous savons que 2 autres familles sont en train d'être déboutés du cadavre. Une famille de deux, une mère célibataire, on pense pouvoir l'aider, on a un T2 qui va nous être prêté au mois de mai. Mais il y a une deuxième famille, pour l'instant, nous avons dit à la direction du CADA, ils sont cinq, on est dans l'incapacité de l'aider, puisqu'on est en train de chercher un logement pour la famille de six, en priorité. L'urgence, c'est ça. J'avais envie de finir en poésie. Je vais vous lire quelques vers d'un poème qui s'appelle « Aller simple ». L'auteur est un Italien. Il s'appelle Eri de Luca. Le texte date de 2005 en italien. Il a été traduit en français en 2012. Je ne parle pas l'italien, je ne vais pas vous le lire en italien. Donc il faut aussi que je vous cite le nom de la traductrice. Elle s'appelle Danielle Valin. Le poème, c'est un livre entier écrit sous forme de poème sur la question des migrants et du rapport spécifique que les Italiens ont avec la mer Méditerranée. Le poème est construit à la mode des chœurs antiques. C'est un chœur de migrants qui nous parle. Nous racontons les routes parcourues, des pas sur des millions de kilomètres, finis face au mur. Nous sommes les innombrables, redoublés à chaque case d'échiquier. Nous pavons de squelettes votre mère pour marcher dessus. Vous ne pouvez nous compter. Une fois comptés, nous augmentons. Fils de l'horizon qui nous déverse à seaux. Nous sommes venus pieds nus et sans semelles et n'avons senti ni épines, ni pierres, ni queue de scorpion. Aucune police ne peut nous opprimer plus que nous n'avons déjà été blessés. Nous serons vos serviteurs, les enfants que vous ne faites pas. Nos vies seront vos livres d'aventure. Nous apportons Homère et Dante, l'aveugle et le pèlerin, l'odeur que vous avez perdue, l'égalité que vous avez soumise. L'un de nous a dit au nom de tous, « D'accord, je meurs, mais dans 3 jours, je ressuscite et je reviens. » Il est 10 heures passées, petit quart d'heure d'échange, si vous le souhaitez. Sinon, les copains de l'asso, n'oubliez pas d'être à la porte pour distribuer les petits flyers à ceux qui sont obligés de nous quitter. Oui.